Mes bien-aimés, frères et messieurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment allez-vous ce matin? Ça va, pasteur, gentil, avec la grâce de Dieu. Voyez, je pose la question et en même temps, je formule, je donne la réponse. Eh bien, que Dieu soit béni de ce qui permet que ce matin, nous soyons présents avec les dispositions qu'il a mis dans nos cœurs pour que nous puissions rendre le culte ce matin à Dieu notre Père Céleste et à notre Seigneur Jésus-Christ. La situation, nous la connaissons, l'année qui change n'a apporté malheureusement dans le cadre du Covid-19 que très peu de changements. J'ai consulté comme vous, eh bien, les informations et béni soit Dieu, heureusement, j'ai constaté, d'après les nouvelles que j'ai lues, que le nombre de contaminations a commencé à diminuer. Donc, c'est déjà quelque chose qui est encourageant. Mais j'évite de regarder trop sur le côté humain et je regarde plutôt sur le côté céleste divin. Car je sais que notre Dieu, notre Père, en un rien de temps, il peut régler le problème. Mais encore faut-il que cela soit conforme à sa sainte volonté. Et ce matin, je peux rien vous cacher, je réfléchissais en moi-même. Je disais, Seigneur, tu sais, bon, le Covid-19 fait les ravages dans le monde. Le monde est en pleine incertitude, en plein questionnement, que ce soit le monde scientifique, le monde politique s'agite parce que certains estiment que le gouvernement ne fait pas les choses comme elles devaient être faites. Enfin, toute une série de polémiques qui accompagnent la réalité à quoi nous sommes confrontés, c'est-à-dire le Covid-19. Covid-19 qui aussi touche autant le monde politique que qu'il y ait son action aussi dans le monde économique, dans le monde culturel, enfin, mes bien-aimés, c'est une situation qui, malheureusement, crée beaucoup de difficultés, de souffrances. Il y a même, vous avez comme moi entendu, des situations où certains se retrouvent en asile psychiatrique, d'autres, malheureusement, avec l'aide que leur donne le malin, se suicident, parce qu'ils ne voient pas d'avenir concernant leur situation. Mais à nous qui sommes ce matin appelés enfants de Dieu, la grâce de Dieu a été renouvelée et Dieu a mis dans nos cœurs eh bien, des sentiments par le Saint-Esprit pour le glorifier, pour le chercher, pour persévérer, pour avancer, pour compter sur lui. Et nous sommes heureux de ceux qui ce matin faisons exactement ce que le psalmiste déclare dans le psaume 37, et au verset 5. Allez-y. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Eh bien, c'est parce que Dieu agit dans nos cœurs par son esprit que nous sommes là ce matin. Et tout à l'heure, nous allons voir avec sa parole, mes frères et mes sœurs, que notre Seigneur ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde, mais il s'occupe de ses enfants qui sont dans le monde. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir ce matin dans quelle direction le Saint-Esprit va nous conduire. Mais je veux maintenant vous parler d'après la direction que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et le Seigneur m'a donné comme une espèce de recommandation pour garder un cap. La recommandation pour garder le cap, c'est de vous parler ce matin de sa part, afin qu'après avoir reçu sa parole, nous soyons autant fortifiés que soutenus, que renouvelés, qu'encouragés, qu'enseignés, qu'instruits, qu'exhortés, qu'édifiés, enfin tout l'apport spirituel qui va nous être communiqué ce matin par le Saint-Esprit, au travers de la parole que Dieu a mis dans mon cœur et que nous allons partager maintenant. Mais avant tout, je voudrais me permettre de vous poser une petite question. Vous connaissez le pasteur Gentil, il a toujours une question à poser. Mais si j'osais vous dire, c'est pour la bonne cause. Et vous allez comprendre pourquoi. Voulez-vous que je vous pose la question? Est-ce que vous allez y répondre? Ah, pasteur, ça dépend. Mais vous allez comprendre pourquoi. La question, elle est celle-ci. Qui a une carte vitale. Levez la main. Pourquoi tu ris? Je te vois rire derrière ton masque. Qui a une carte vitale? Levez la main. Moi, j'ai ma carte vitale. Et si j'ai une carte vitale, cela me confère une assurance maladie. N'est-ce pas? Donc j'ai une assurance maladie. Et quand je vais voir le médecin, il me dit, donnez-moi votre carte vitale. Cela signifie que j'ai une couverture sociale. Bien. Qui a une maison? Qui a une assurance pour sa maison? Levez la main. Mais oui, on a une assurance pour la maison parce que l'assurance va nous donner des garanties en cas de sinistre, incendie, etc. Alors, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Cette lecture se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, et regardons ce que dit le Saint-Esprit à partir du verset 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Mais, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, alors mon âme ne prend point plaisir en lui et nous pouvons dire là, amen. Que Dieu soit béni. N'abandonnez donc point votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et si nous avons compris que le fil conducteur du message de ce matin qui servira à notre enseignement et qui sera pour nous, eh bien, la manière que le Seigneur a choisi de nous parler, eh bien, nous pourrions déjà nous approcher un peu en considérant comment nous pourrions décrire ce mot « assurance ». Eh bien, l'assurance, entre autres, définition, pourrait être définie ainsi. C'est un contrat passé entre un assuré et un assureur qui a pour but de donner des garanties qui garantit le premier, donc l'assuré, de recevoir du second l'assureur, ce qui dans les clauses lui donne droit à une couverture en cas de risque, comme sinistre, incendie, accident, etc. Nous sommes toujours d'accord. Ça vous convient? Mais pour que ça puisse bien vous convenir, la conclusion elle est celle-ci. Tout ce que je viens de vous dire, c'est moyennant une cotisation. Parce qu'il n'y a pas d'assurance si tu n'as pas cotisé. Pour que tu sois couvert, il faut que tu conclues le contrat. Mais pour que le contrat soit valable, il faut que tu payes la cotisation. Nous sommes d'accord? Eh bien, pour que ce matin tu aies de l'assurance, rassure-toi, c'est le cas de le dire. Tu n'as pas besoin de payer. Ouais, amen, 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 c'est bien de dire amen, mais qui c'est qui a payé? Ah, t'as pas besoin de payer parce que Jésus a déjà payé. Je dirais même que Jésus a déjà tout payé. Il a déjà tout réglé pour que ce matin, comme enfant du Père, tu puisses ne pas abandonner ton assurance. Alors, frères et sœurs en Christ, vous pouvez me dire, pasteur, c'est bien beau ce que vous dites. Mais moi, j'ai besoin, justement, de garantie qui va me conforter dans cette assurance que Dieu a mis dans mon cœur et qui va être un moyen comme un moteur intérieur de me propulser toujours en avant sur le chemin de la persévérance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des épreuves, il y a des combats, il y a le Covid-19, il y a tout ça à quoi je suis confronté, mais avec tout ce qui existe, il y a le risque que je déchoie de mon assurance. Mais justement, le Seigneur veut ce matin te renforcer dans ton assurance. Alléluia! Il veut te fortifier, il veut te soutenir, il veut t'encourager, et pour cela, il a choisi de t'enraciner de plus en plus en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons considérer, justement par rapport au fait de ne pas abandonner, donc, notre assurance, 7 A, qui vont alimenter justement mon assurance, qui vont me fortifier dans ce que je crois, qui vont me structurer dans ma vie comme enfant de Dieu et qui seront utiles pour moi comme une source d'énergie pour que chaque jour que Dieu me laisse sur la terre, et ce, jusqu'à ce que je ferme les yeux ici-bas, je ne puisse jamais déchoir de mon assurance. Alléluia. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, le premier A. Je vous ai dit qu'il y en a 7. Hein. Le premier A, c'est ce que nous pourrons trouver en lisant le texte de 1 Jean. Le chapitre 4, au verset 7. Je sais que vous connaissez comme moi ce grand classique de la Nouvelle Alliance qui se trouve mentionné dans Jean 3, 16. Et que notre frère Archange, lorsqu'il prêchait l'évangile, aimait à mettre en évidence, rappelant sans cesse que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais là, l'apôtre Jean va nous amener sur le même terrain, mais pour nous amener à entrer dans cette réalité dans laquelle nous avons déjà été introduites, mais pour nous conforter dans notre assurance. Regardez avec moi. Alors j'ai dit quoi? 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il s'adresse à des enfants de Dieu, comme nous ce matin. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime, est né de Dieu et il connaît Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La raison, dit avec moi, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé qui? Son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais dites avec moi, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors dites-moi, est-ce que ça me donne pas de l'assurance? Oui, cela me donne de l'assurance. Et ailleurs, l'apôtre dira, car si lorsque nous étions ennemis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour mourir à notre place, à combien plus forte raison que maintenant que nous sommes avec lui réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie? Le premier A qui va me donner de l'assurance ce matin, c'est l'amour de Dieu pour moi. Oui, Dieu m'a aimé. Cet amour, j'en ai toute la preuve. Quand je regarde Jésus à la croix, baignant dans son sang à moitié nu, subissant le châtiment que je méritais, quand je regarde Jésus-Christ qui accepte les souffrances, la Bible nous parle de Jésus dans ses thèmes, eh bien, il est dit qu'il a méprisé l'ignominie et qu'il a enduré l'opposition de la part des pécheurs en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel. Tout cela parce que Dieu voulait nous faire entrer dans son plan béni d'adoption. Il avait résolu de faire de nous ses enfants. Alors que nous ne méritions rien, nous étions loin, égarés, asservis à toutes sortes de passions, comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour qui me donne ce matin d'être assuré, rassuré et d'avoir des certitudes? Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance parce que Dieu vous aime. Oui, ce matin, mon frère, ma sœur, tu peux avoir de l'assurance parce que Dieu non seulement nous aime, mais il a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous racheter. À peine mourrait-on pour un homme de bien et tous ceux qui vont accompagner l'œuvre de Jésus-Christ, mais Dieu a donné son fils Jésus-Christ pour des pécheurs, des gens qui ne le cherchaient pas. Nous qui étions étrangers aux alliances de la promesse, nous qui étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde, nous que Satan tenait comme des esclaves, des prisonniers, nous qui étions dans les ténèbres jusqu'au cou, mais quand le temps a été accompli, c'est ce qui est formidable. Dieu avait fixé cela de sa propre autorité, et c'est lui-même qui nous a attirés de divers milieux sociaux, de diverses couleurs de peau, de diverses origines, de diverses ethnies, pour nous rassembler dans un seul corps, qui est le corps de Christ, l'Église que Jésus-Christ bâtit. Béni soit Dieu ce matin pour sa manière de nous conforter dans notre assurance par son amour. Le deuxième A, il y en a sept. Hein. Le deuxième, nous allons le trouver en regardant, frères et sœurs en Christ, toujours dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 8. Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et là, le texte qui nous est mentionné ici, c'est exactement ce qui va découler alors que nous sommes dans l'ancienne alliance et que ce sont les sacrifices du Lévitique qui sont en vigueur. Dieu, au travers le prophète Jérémie, va entrevoir ce que nous pourrions définir comme étant la promulgation ou la future promulgation de la nouvelle alliance par la grâce de Dieu. Il déclare déjà à son serviteur Jérémie, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » C'est Jérémie 31. Et puis il rajoute, « Non, comme l'alliance que je conclus avec vos pères, lorsqu'ils sortis d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Et voici les jours viennent, où je ferai avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Voici comment est définie cette nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et puis, il rajoute ce qui va découler de cette alliance quand elle va être promulguée et établie. Nul n'enseignera son concitoyen ou celui-ci son frère disant qu'on est le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Pourquoi ? Parce que je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. N'est-ce pas là extraordinaire, frères et sœurs en Christ? Nous sommes sur le terrain du fonctionnement des deux alliances. La première, l'homme devait chercher personnellement une certaine justice par la pratique des œuvres de la loi. L'ancienne alliance disait « Fais et tu arriveras à une certaine justice. » Mais tu seras obligé de constater que malgré tous tes efforts, tu vas jamais y arriver. Pourquoi? La loi n'a rien amené à la perfection. Qu'a-t-elle fait? Elle a libéré la puissance du péché et mis en évidence les conséquences pour le transgresseur. Mais quand la nouvelle alliance est en préparation pour être promulguée, Dieu dira, moi je le ferai. Je mettrai. Je pardonnerai. Mais tout cela, derrière tout cela, il y a entrevu le sacrifice de Jésus. Parce que dans toute alliance que Dieu conclut, il y a aussi le sang qui est important. Dans la Bible, il y a 8 grandes alliances. Mais à chaque fois, c'est sur la base du sang. quand Dieu fait alliance avec Noé, Noé puis des animaux purs, etc., des bêtes pures. Puis, il va faire le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, c'était le même processus. Quand Dieu va faire alliance avec Abraham, il y a des bêtes qui sont tuées, et Abraham va passer au milieu. Mais pour nous, frères et sœurs en Christ, la nouvelle alliance, c'est ce qui me donne ce matin de l'assurance. Hallelujah! Je suis objet d'une alliance nouvelle. Dieu a conclu pour moi, avec Jésus, dans cette œuvre grande et glorieuse, une alliance en tout point bien réglée. Je n'ai pas besoin de faire des gymnastiques spirituelles pour y arriver. Je n'ai qu'à croire ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ. Je n'ai qu'à y adhérer et le Saint-Esprit à ce moment-là va entrer en action et il va authentifier ces choses en moi comme une réalité spirituelle divine par laquelle je vais vivre parce qu'elles sont vivantes en moi. Vous savez ce que ça fait, frère et soeur en Christ? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Ça donne du repos. Ça me donne du repos. Et oui, ça me donne du repos. Et ce repos se traduit par la paix intérieure. Mais oui. Donc je ne peux pas abandonner mon assurance. Parce que Dieu a fait tout ce qu'il faut pour que je sois assuré. Pour la carte vitale, il fallait que tu remplisses un dossier. Ah ben oui, pour la carte vitale, il faut remplir un dossier. Il faut mettre les fiches de paix, etc. Tout ce qu'on te demande. Il y a toute une liste de choses qu'il faut faire. Mais pour que tu aies de l'assurance ce matin, il y a une liste de choses que Dieu a conclues pour toi en Jésus-Christ. C'est écrit dans l'Alliance. Mais oui, c'est écrit dans l'Alliance. Le troisième A, il y en a sept, hein. Nous sommes au deuxième. Alors, le troisième. Parce que, frères et sœurs en Christ, ce matin, je suis assuré de l'amour de Dieu, qui m'a aimé, qui m'a prouvé son amour, parce que je suis objet de son alliance ce matin, alors, cela me confère autant de privilège, mais qui n'enlève en rien mes responsabilités. Les privilèges, je les aime, j'en profite, mais je ne peux dissocier les privilèges de la responsabilité, parce qu'elles sont liées entre elles. Alors, regardez ce qui s'est passé, frères et sœurs en Christ, dans cette église de Thessalonique. Cela se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1er, et au verset 8. Thessalonique était une ville côtière. Et qui dit ville côtière, obligatoirement, il y avait un brassage de culture. Qui dit brassage de culture, eh bien, c'était des fois de l'idolâtrie, de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, et c'est au milieu de tout cela que l'apôtre Paul a prêché sur à peu près moins de mois. Mais l'espace de moins de mois, il a été conduit à mettre en place, eh bien, les grandes réalités de la doctrine de Jésus-Christ, si bien que le travail s'est fait d'une manière merveilleuse. Et c'est un peu ce qu'il résume dans ce que nous allons partager. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 8, dira-t-il, « Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, donc les contrées voisines, mais encore votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu. » De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car voici le témoignage qui est rendu de vous et aussi de nous, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Voici le troisième A. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Oui, ce matin, j'ai de l'assurance. Et je ne peux donc pas abandonner mon assurance parce que je suis assuré de l'amour de Dieu. Je suis assuré que Dieu a fait de moi objet de son alliance. Alors, à cause de cela, j'ai abandonné les idoles. Dieu m'a délivré de l'idolâtrie. Frères et sœurs, que s'il y a quelque chose que Dieu a en horreur et qu'il réprouve, c'est l'idolâtrie. Dieu réprouve l'idolâtrie autant qu'il réprouve la sorcellerie et tout ce qui accompagne, eh bien, l'esprit, le cœur et la vie de l'homme. Mais il réprouve l'idolâtrie avant de réprimer l'immoralité. Pourquoi? Parce que celui qui est dans l'immoralité pêche contre son propre corps. Mais celui qui est dans l'idolâtrie, il substitue à Dieu une autre divinité. C'est pourquoi Dieu avait constamment avec son peuple des problèmes. Et quand Dieu les définissait, il disait qu'ils s'étaient prostitués aux divinités étrangères. Mais ce matin, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, le Saint-Esprit dans nos cœurs nous rappelle ce grand principe divin. N'abandonnons donc pas notre assurance. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Deuxièmement, il a fait de nous objet de son alliance. Alors à cause de cela, le Saint-Esprit me conduit à certaines attitudes d'abandon. Je dois abandonner des choses. Et en abandonnant des choses, je suis placé sur le terrain de la sanctification. Quand nous avons cru pour le salut, il y avait des choses qui étaient attachées à nous, des valeurs auxquelles nous étions attachés nous-mêmes. Mais le Seigneur a fait ce travail à l'intérieur du cœur comme un renversement des valeurs. Il a mis de côté ce qui avait de l'importance pour moi et il a installé dans mon cœur ce qui avait de l'importance pour lui. Et c'est ce qui a de l'importance pour lui qui me donne de l'assurance. Des promesses de sa parole à laquelle ça grippe ma foi, qui alimente ma patience, qui me propulse dans la persévérance et qui me fixe le but à atteindre, le bout de la course, l'achèvement, pour avoir la rémunération. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons de l'assurance pour pouvoir continuer la course et ne jamais rien laisser qui voudrait s'interposer entre notre Seigneur et nous. Hébreux 11. Il est parlé de quelqu'un d'illustre dans les Saintes Écritures, qui lui aussi, dans une tranche de vie, a été conduit à certains abandons parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'a-t-il fait? Eh bien, Hébreux 11, 24 nous rappelle, nous rapporte. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, devenu adulte, il avait une certaine expérience. Il avait déjà fait un chemin avec Dieu. Devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Après l'abandon, alors il est dit, il préféra, préférence, quoi? Être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Après, qu'est-ce que cela produit? Le discernement, il regarda, quoi? L'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, la récompense. Continuons. Verset 27. Toujours ce qui découle de la réalité dans laquelle Dieu l'a introduit, c'est par la foi qu'il quitta, il abandonna, quoi? L'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi. Attitude, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourtant, le trône de l'Égypte lui était promis, lui était destiné, lui était réservé. Mais il a préféré la maltraitance avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cela veut dire, eh bien, il a été conduit à séparer ce qui est vil que ce qui est précieux. Ce qui est précieux, c'était les choses terrestres qu'il avait devant lui. Mais ce qui est précieux, c'est le trône de l'Égypte qui était destiné. Ce qui lui était proposé, c'était précieux. Parce que en Égypte, on est sur le summum des technologies avancées, des richesses sans compter. Et Moïse était appelé à jouir de tout cela. Mais il a préféré la maltraitance plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché et terminer sa course en pleine déconfiture. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, en Christ, après sa fuite, Dieu va prendre les choses en main. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, et les 40 dernières années, il va les passer à voir la gloire de Dieu. Autant comme législateur que comme serviteur.
dans la main de Dieu.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, récapitulation, parce que vous êtes aimé de Dieu, parce que vous êtes objet de son alliance, et à cause de ça, le Saint-Esprit a fait un travail pour vous séparer, pour abandonner les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux celui qui nous a promis, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tiens. Voici le quatrième A. Romains, le chapitre 6, au verset 5. Romains 6, 5. C'est ce qui est inclus dans la série de sujets que nous avions partagé il y a quelque temps et dont nous avions noté ou que nous avions appelé le chemin du progrès ou la vie chrétienne normale. Alors, Romains 6, au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre à l'égard du péché. Et le Saint-Esprit prend soin d'expliquer cela et l'inclut comme quelque chose qui découle de l'expérience du baptême. Comme si nous avons été ensevelis avec Christ. Lorsque nous avons pris le baptême, un ensevelissement. Lorsque nous sommes sortis de l'eau, une résurrection. Mais là, le Saint-Esprit emploie une autre expression. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, dans la conformité à sa mort, nous le serons aussi dans la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, nous sommes sur le terrain, excusez-moi, on va faire un petit peu de jardinage, c'est ça? Voyez comment le jardinier, lorsqu'il lui prend l'envie de faire une greffe, eh bien, il va se livrer à une technique. Il y a plusieurs techniques de greffe, hein. Mais l'important, c'est que la greffe prenne. N'est-ce pas? Une fois que la greffe est prise, tu vas pas te poser de questions, tu vas attendre simplement que le travail se fait pour que tu vois apparaître des fruits. Alors si nous sommes devenus une même plante avec Christ dans la conformité à sa mort, nous allons aussi le devenir dans la conformité à sa résurrection. Donc ça veut dire la greffe a pris. Et c'est la greffe qui va déterminer, même si là où la greffe a été faite, il va rester quand même la marque de la greffe, mais la sève va circuler autant dans le tronc, il va passer par la greffe, mais il va continuer dans les branches. Vous savez comment le Saint-Esprit parle dans l'épître de Paul aux Colossiens lorsqu'il va nous parler du mystère de Dieu révélé parmi les païens? Ce mystère, dit à l'apôtre, caché dans tous les temps, mais révélé maintenant pour nous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, la vie de Jésus en vous, dans l'homme nouveau, mais qui va irradier toutes vos traites, particulièrement la vieille nature qui ne veut pas se laisser faire. Il y a toujours son mot à dire. Mais le vieil homme, eh bien, le Saint-Esprit le met au travers de l'énergie déployée par la vie de Christ en nous, dans l'homme nouveau. Le Saint-Esprit met l'homme nouveau sous éteignoir, de telle manière qu'il ne peut pas faire ce qu'il voudrait, ni m'entraîner à faire ce que Dieu ne voudrait pas. D'où cette importance, comme on a vu la semaine dernière, de devenir malléable, comme l'argile dans la main du potier. Alléluia. Mais oui, si je suis devenu avec Christ une même plante dans la conformité à sa mort, le c'est aussi dans la conformité à sa résurrection. Ça veut dire que la vie de Jésus-Christ va circuler en moi, dans l'homme nouveau, hein. Et progressivement, elle va s'amplifier, s'élargir, s'exprimer, de telle manière, je dirais pas comme l'apôtre Paul, que je vais arriver à cette confession, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Certes, Paul l'a dit, mais moi, je ne peux pas dire que c'est Christ qui vit en moi de telle manière où je suis supraspirituel. Non! C'est pour cela aussi, comme dit Corinthiens, que nous devrions nous efforcer de lui être agréable. Là, nous sommes sur le bon terrain. Car si je dis Christ vit en moi, ça veut dire que j'arrête de faire des efforts parce que tellement la vie de Christ est en moi, je suis déjà arrivé. Non. C'est ce que la vieille nature demande. Et c'est aussi que Satan aime. Me plonger dans l'orgueil et précipiter ma chute. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Tu me confortes dans mon assurance, mais je suis sur le terrain de la connaissance que sans toi, je ne peux rien faire. Voilà. Là, nous sommes dans le vrai, mes bien-aimés. Alléluia. Ce matin, tu peux avoir de l'assurance que Dieu t'aime, que tu es objet de son alliance. Il t'a conduit par la révélation de Jésus-Christ à abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et puis après, il t'a attaché à lui, lié à lui. Il y a une vie divine en toi. Ce que tu es de papa et de maman, un jour ici-bas va s'arrêter. Mais ce que tu es en Christ, c'est déjà pour l'éternité. Encore faut-il que tu sois attaché à lui. Car plus tu es attaché à lui, plus son caractère, ses sentiments, sa personnalité vont rayonner en toi dans l'homme nouveau. Mais si ça rayonne dans l'homme nouveau, ça ne pourra pas rester caché. Qu'est-ce que l'apôtre dit aux Philippiens, au chapitre 2 ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec le Père. Mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Et après avoir paru comme un vrai homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a 7 degrés dans l'abaissement de Jésus. Ils sont suivis de 7 degrés dans l'élévation de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, Église de Christ, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père? Dites-moi. Oui, on le confesse. Donc, c'est un synonyme de mon assurance. Beaucoup de gens aujourd'hui rejettent Jésus-Christ. Beaucoup de gens méprisent Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Mais ce matin, nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cette confession, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Car tu ne peux pas confesser que Jésus-Christ est Seigneur si c'est pas par le Saint-Esprit. On avait dit que le Saint-Esprit a fait un travail en toi qui t'amène à cette confession. Non seulement il t'amène à confesser Abba Père, il authentifie la filiation spirituelle entre toi et le Père, mais il t'amène à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Amen.
Sortir du cœur. Bon Dieu. Écoutez, mes bien-aimés. Dans le psaume 45, le psaume des fils de Corée, nous regardons le psalmiste qui déclare ces paroles. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alors si ça bouillonne dans mon cœur, ça veut dire qu'il y a une énergie, et cette énergie se traduit par ma confession. Alors je dis, mon œuvre est pour le roi. Et voici que le Saint-Esprit le conduit sur un terrain prophétique, mais dans ce terrain prophétique, il y a quelque chose en même temps qui est poétique. Je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Afin que j'écrive, quoi? Mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Tu es le plus beau des fils de l'homme, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Belle déclaration, n'est-ce pas? Alors ce matin, dans l'assurance, tu peux dire à ton maître Jésus-Christ que tu l'aimes. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Jésus aime quand je lui dis que je l'aime. On n'y pense pas toujours. Mais si j'ai une relation spirituelle avec mon maître, c'est pas simplement lui manifester mon amour, ma reconnaissance. Certes, il a exaucé ma prière, alors je dis Seigneur merci. Mais dans notre intimité, dans notre communion, il aime à entendre de ma bouche que je lui dis Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oh, je t'aime si mal en comparaison de ton amour pour moi. Je t'aime si peu Eh bien, en évaluant la dimension de ton amour pour moi. Mais je t'aime de tout mon cœur. Est-ce que vous croyez que ça fait plaisir au Seigneur? Oui, ça lui fait plaisir et ça me conforte dans mon assurance. Alors, on voit le cinquième? Oui ou non? Oui, on voit le cinquième. On a vu le sixième qui nous parle de l'attachement. L'attachement par ce que nous avons vu, la conformité, puisque nous sommes devenus avec lui une même plante. C'est la même vie qui coule en lui, qui coule en moi. Même plante, attachée, soudée, liée, enracinée. Alors, il y a quelque chose qui est important, qui va découler justement de tout ce que nous avons vu. Ce que nous voyons maintenant va découler des quatre premiers. C'est Hébreux, le chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, 19. C'est pour un peu la raison de notre présence ce matin. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je dis Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi, donc, conjonction de coordination, c'est ça? Tu vas ouvrir maintenant une explication ou qui va nous introduire dans une réalité. Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par quel moyen? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors voici maintenant le A qui arrive. Verset 22. Quoi? Lisez. Approchons-nous. Approchons-nous. Comment? Donc. Approchons-nous. Donc. Et ce donc mentionné ici nous ouvre la porte des possibilités divines qui ont déjà été réalisés. Approchons-nous donc. Ça veut dire, t'as pas besoin d'ouvrir la porte. T'as pas besoin de tracer le chemin. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors, puisque c'est déjà fait, alors maintenant, fais une chose en pointe. Approchons-nous donc. L'apôtre Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais l'apôtre Pierre nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et puis, vous êtes invités à vous approcher, et vous-même, édifiez-vous. Vous-même sur ce fondement. Vous l'avez dit là, nous sommes sur le terrain de la construction de l'Église par Jésus-Christ, mais avec des pierres vivantes que nous sommes devenus. Que le Seigneur a placé chaque pierre dans un endroit bien défini, afin qu'il soit utile là où le Seigneur l'a mis, faisant un travail particulier, mais toujours pour l'utilité commune. Dans ce cadre-là, il n'y a personne qui vole tout seul. On a tous besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que la pierre peut être placée, elle peut être utile, mais la solidité va dépendre du ciment qui va l'enrober pour le coller à l'autre. N'est-ce pas? Je ne vois pas de ciment qui va m'unir à Gérard ou à Bruno ou à Henri. C'est l'amour de Dieu qui nous unit. C'est l'alliance de Dieu qui nous unit. C'est ce à quoi nous avons été conduits à abandonner qui nous unit. Ça veut dire que nous sommes sur le même terrain. Voilà pourquoi tous nous avons de l'assurance. Alléluia. J'ai de l'assurance ce matin. J'ai de l'assurance. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est le travail de Dieu en moi. Que Dieu soit béni. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, un critère défini. La plénitude de la foi, les cœurs purifiés de tout ce qui donne mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Et après, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et lorsque nous lisons le verbe professer, ici mentionné, le verbe professer, cela signifie être d'accord pour dire la même chose. J'avais dit ce matin, je suis d'accord pour dire la même chose que Dieu dit. Je n'ai pas besoin de créer quelque chose, je n'ai qu'à dire ce que Dieu dit. Et quand je dis ce que Dieu dit, je vous rappelle, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une solidité. Les yeux ne le voient pas, Les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit. Et le Saint-Esprit l'a mis en moi de telle manière que ça me donne autant d'assurance que de certitude. Ah, frères et sœurs en Christ, ce matin, ce qui est dit de la part du Seigneur, c'est quelque chose qui rafraîchit nos mémoires, mais qui, avec tout ce à quoi on est confronté dans le monde, et tout ça à quoi nous serons confrontés demain, mais cela me donne du repos à l'intérieur. J'ai pas besoin de travailler, de me titiller l'esprit. Dieu me donne d'avoir de l'assurance. Parce que mon assurance n'est pas dans ce que les hommes disent, dans ce que je vois, dans ce que fait Satan. Mon assurance est dans les saintes écritures, dans ce que Dieu me dit. Alléluia. C'est ce qui est formidable. Allez, avant de passer à la sixième, j'ai une autre lecture à faire avec vous. Toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça a un rapport avec l'exaucement de la prière. Alléluia. Ça se trouve dans Hébreux 4:14. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux 4:14. Ainsi donc, alléluia. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, tout à l'heure nous avons vu que la route nouvelle et vivante a été inaugurée et que désormais nous pouvons nous approcher, n'est-ce pas? Mais là, il nous parle en rapport avec la prière. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est-à-dire, la profession de ma foi va m'amener à confesser les promesses qui s'attachent à l'écriture dont ma foi se nourrit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Est-ce que ce matin, pasteur Gentil, avec l'assurance que vous dites avoir, vous avez des faiblesses? Mais bien sûr que j'en ai des faiblesses. Mais les faiblesses que je peux avoir et qui peuvent se manifester dans ma vieille nature n'enlèvent rien mon assurance. Non, ce n'est pas mon assurance. Alors, Jésus compatit à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de... Verset 16. Lisez, qu'est-ce qui est écrit? Approchons-nous donc avec assurance. Ce matin, je m'approche de Jésus avec assurance. Parce que je m'approche pas pour recevoir un coup de bâton sur la tête. Je m'approche pas à cause de mes imperfections. Je m'approche pas parce que j'ai une énergie de ma vieille nature qui m'épouse. Non! Je m'approche parce que je suis objet de son alliance. Je m'approche parce que j'ai la certitude que Dieu m'aime. Je m'approche parce que j'ai abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Je m'approche parce que je suis attaché à mon Sauveur. C'est ça qui donne de l'assurance. Et en approchant avec assurance, auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, en rapport avec la prière. Mes frères et mes sœurs, si Dieu pouvait nous soulever un petit peu le bord du voile de l'invisible, et qui nous montre tout ce qu'il nous a réservé, tout ce à quoi nous sommes destinés, tout ce qu'il a préparé pour nous, je vous assure que les mouchoirs seraient mis de côté, les larmes seraient séchées, et les lamentations cesseraient tout de suite. Ben, comme l'apôtre a dit, nous savons que demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Mais si nous sommes loin de lui physiquement, nous sommes unis à lui par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas au rang de ceux qui, promenant des regards inquiets, qui se lamentent matin, midi et soir. Non, nous sommes au rang de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, mais nous sommes aussi au rang de ceux dans le cœur desquels le Saint-Esprit a mis cette assurance bénie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, tiens, j'ai encore une dernière lecture à faire dans le cadre de l'approche. Il y a pourquoi nous allons voir les deux derniers. Voulez-vous que nous voyons ensemble? Alors, pour ceux qui prennent des notes, notez 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 9. C'est pour cela aussi que nous devrions nous efforcer de lui être agréable. C'est notre part. C'est un effort pour moi de travailler pour être agréable à Dieu. Mais regardons Jésus. Regardons Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 29. Il va rappeler ceci à ceux qui étaient présents ce jour-là et il nous le rappelle ce matin. Jean 8, au verset 29. Oui, c'est ça. Jean 8, 29. Regardez. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé, dit Jésus, est avec moi. Voilà pourquoi Jésus avait toujours de l'assurance. Et il rajoute, il ne m'a pas laissé seul. La raison, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus a toujours fait ce qui est agréable au Père, tandis que nous sommes conduits à nous efforcer de lui être agréable. Mais ça n'enlève rien que nous ayons de l'assurance. Parce que sinon, frères et sœurs en Christ, nous serions vite découragés et nous aurions beaucoup de mal à avancer. Mais béni soit Dieu ce matin qui nous rappelle, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Voici, frères et sœurs en Christ, et je vais aller vite, le sixième A. Et pour ce faire, je vous ramène dans 1 Thessaloniciens. Voulez-vous que nous y allions? Allons-y. C'est au chapitre 1er, les versets 9 à 10. Et après, je vous donne le dernier pour que nous puissions prendre la Sainte-Seine. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre, aidez-moi, 1er, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet, nous l'avons lu tout à l'heure, mais dans un chapitre, ou même dans un verset, il y a plusieurs ouvertures qui peuvent être consignées. Alors, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, on vient d'en parler tout à l'heure. Et puis, le verset 10, après l'abandon, maintenant c'est pour attendre. Voici le sixième A, c'est l'attente. Sixième à l'attente. Dans mon assurance, dans cette attente, j'ai de l'assurance. Pourquoi? J'ai abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant, c'est vrai. Mais j'attends. Et quand quelqu'un attend, il vit dans l'espérance. Il vit dans l'espérance. Et cette espérance que nous avons dans le cœur, sœur en Christ, elle ne vient pas de ce que nous pensons ni ce que nous voulons. Mais elle découle de l'œuvre de Jésus à la croix. Et je bénis Dieu pour la déclaration de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3. C'est une déclaration que j'aime et je la cite quand je fais malheureusement des cérémonies d'enterrement où je suis amené à dire les paroles d'espérance que donne l'évangile. Vous savez comment s'exprime l'apôtre Pierre ? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui par la foi êtes gardés pour le salut peut être manifesté dans les derniers temps. Ça me donne envie de danser. Tellement c'est beau. Ça c'est beau ça. Je n'ai pas fait quelque chose pour mériter ça. Cela vient de l'autorité du Père. Cela vient du bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Cela vient du mystère de sa volonté. C'est lui qui a résolu cela et qui a mis ces choses en évidence lorsque les temps ont été accomplis. De telle manière que moi, je n'ai qu'à simplement croire ce que Dieu dit, accepter ce qu'il a fait, y adhérer, et c'est ce qui produit en moi de là, de l'assurance. Vous avez été délivré des idoles. Et aussitôt après, pour attendre des cieux. Moi, j'attends pas le cimetière. J'attends pas la tombe. Et comme je disais au bien-aimé hier soir, quand bien même on me ferait un enterrement de première classe, moi, je vous dirais que la plus belle sépulture à laquelle j'aurai droit, parce que j'ai pris soin d'avoir une convention obsèque la plus élevée, certes, tout ça, c'est bien. Mais si j'osais vous dire, je vous dirais que celui qui le construit ne s'en sert pas, Celui qui s'en sert ne le voit pas. Ça vous convient? Alors si ça vous convient, dites-moi quoi? Celui qui le construit ne s'en sert pas, et celui qui s'en sert ne le voit pas. Eh bien, c'est le cercueil que construit le menuisier. Le menuisier le construit, mais il s'en sert pas. Le mort qu'on va mettre dedans ne le voit pas. Nous sommes d'accord? Moi, je vous fais travailler ce matin. Mais oui. Mais ça veut dire que même quand on mettrait dans le plus beau cercueil, même si le cercueil est en argent, en or, même si on te met dans un cercueil en diamant, c'est pas important. Au Panthéon, enfin, peu importe l'endroit. L'important que ce matin-là, ce qui va te donner de l'assurance, c'est que le Saint-Esprit a déjà mis dans ton cœur les réalités spirituelles qui sont vivantes en toi. Et même si ton corps est semé corruptible et qu'il ressuscite incorruptible, et tout ce que Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 15 concernant ce qu'il y a après la mort, eh bien, tu seras au courant, mais l'important c'est que ça vive en toi. Que ça vive en toi, c'est ce qui est important, mes bien-aimés, ce matin. Et c'est ce qui me donne de l'assurance. Moi, en tant que pasteur, je le dis, j'ai fait beaucoup d'enterrements. Mais si le Christ tardait pour venir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut, alors c'est un autre pasteur qui fera mon enterrement. Mais l'important, c'est pas qui fera mon enterrement, c'est comment je vais fermer les yeux. Et lorsque je fermerai mes yeux, ma dernière pensée, mon dernier souffle sera pour appeler mon sauveur. Comme Étienne a dit, reçois mon esprit. Oh, je sais, personne ne veut mourir, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il y a tellement peu d'amen là. Quand on dit ça, il n'y a pas un petit amen qui sort de la masse. Ah, personne ne veut mourir, mais tout le monde veut aller au ciel. Hein. Mais, mes bien-aimés, si le Christ tardait, mais tôt ou tard, nous, on va connaître cela, mais l'important... Vous savez, j'ai écouté le pasteur, je peux vous dire son nom, pasteur Capron, c'est un enterrement qu'il faisait, puis j'ai trouvé ça, je le lui ai dit d'ailleurs. Pasteur Capron dit ça dans un cantique, « Non, ce n'est pas mourir que d'aller dans la maison du Père. » Mais non, c'est pas mourir. Au Thessalonicien, l'apôtre parle d'un sommeil au sujet de ceux qui dorment. À Daniel, Dieu dit, et toi Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras, un repos, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps. Étienne, il s'est endormi. Le chrétien, il a été délivré de la crainte de la mort. Ben oui, Jésus m'a délivré de la crainte de la mort. Auparavant, oui, j'avais peur de la mort. J'avais peur de mort. Mais maintenant, Jésus m'a délivré de la crainte de la mort. Par son œuvre à la croix, il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Tiens, voici le dernier A. Ah, enfin! Alléluia, mes bien-aimés, que Dieu soit béni. Donc, on a fait le tour, donc, délivré pour attendre, c'est-à-dire une vie dans l'espérance. Et puis, notez chez vous, vous le lirez. Oh, même pas vous le lirez, c'est moi qui vais le lire avec vous. Cela va vous conforter dans ce que Dieu vous dit ce matin. C'est Hébreux 10, 25. Dans Hébreux 10, 25, c'est quelque chose qui a de l'importance pour nous ce matin. Et ça va en même temps ouvrir la porte à la dernière pensée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Certaines personnes me disent, pasteur, ah, je viens par l'assemblée, mais j'ai pas abandonné le Seigneur. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça, c'est une réflexion évangélique, une déclaration évangélique qui ne me plaît pas trop. J'y adhère pas. Quand si j'ai pas abandonné le Seigneur, je suis là où Dieu bénit son peuple. Et je fais tout ce que je peux pour être présent. Pourquoi? Car il est bon pour des frères de demeurer ensemble. J'ai besoin de la communion fraternelle. J'ai besoin de voir mes frères, j'ai besoin de voir mes sœurs. J'ai besoin de me retrouver dans l'unité de l'esprit lorsqu'on vient rendre le culte à Dieu. Oui. D'autres me disent, oh, vous savez, pasteur, j'ai pris du recul. Ah, j'ai cherché dans l'écriture, mais j'ai jamais trouvé ça. C'est bizarre quand même. Si tu prends du recul, à un moment donné, Satan va t'aider tellement à prendre du recul, il va créer des circonstances pour que tu ne reviennes plus. Je ne dois pas donner à la chair aucune raison de m'amener à faire le contraire de ce que Dieu dit. Voici le dernier, mes bien-aimés. Oh, je sais que j'ai prêché un petit peu long aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Hein. On est début janvier, hein. Excusez-moi. Hein. Voici le dernier. Pour le dernier, nous allons le trouver dans Proverbe 10, verset 9. Première lecture, Proverbe 10, verset 9. Il est parlé de l'intégrité et de l'assurance qui va accompagner celui qui marche dans l'intégrité. Proverbe 10, verset 9. Alors, je le lis avec vous et après quoi nous passons, tout de suite après nous passons dans les deux dernières lectures. Alors, j'ai dit Proverbe 10, verset 9. Regardez. Celui qui marche dans l'intégrité, qu'advient-il de lui? Il marche avec assurance. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Et dans le psaume 26, si le Seigneur le permet un jour, nous allons tirer les 7 points de l'intégrité dans le psaume 26, mais pas ce matin, quand le Seigneur permettra. Bien. Puis, voici nos deux dernières lectures pour ce matin. Et vous allez comprendre et trouver le dernier A, le septième. 1 Jean 2, 28. Maintenant, petits enfants, dit l'apôtre Jean, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de, dites-le plus fort s'il vous plaît, nous ayons de l'assurance. Et voici le dernier A, afin que son, qu'à son, afin qu'à son avènement. C'est la conclusion. C'est ce qui ferme la boucle. Le dernier A, l'avènement du Seigneur, son retour, afin qu'à l'avènement, qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Est-ce que vous dites amen?
Amen.
Et voici la dernière lecture, la dernière des 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, pardon, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance. De l'assurance aujourd'hui. Au jour du jugement, j'aurai de l'assurance. Mais je ne pourrai avoir de l'assurance au jour du jugement que si j'ai de l'assurance à son avènement. Je ne peux dissocier l'un de l'autre. Ben oui. Si au jour de son avènement j'ai de l'assurance, je serai au rang de ceux qui bénéficieront de cette parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. N'abandonnons donc pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et la plus grande de toutes les rémunérations, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. J'ai pas besoin de récapituler. Vous avez pris des notes. Prions le Seigneur. Mon Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Seigneur, tu m'as bien donné la directive de parler à tes enfants quant à l'importance de ne donc pas abandonner notre assurance. Car c'est à elle qu'est attachée une grande rémunération. Maintenant, mon Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu œuvres dans les cœurs de tes enfants pour pouvoir, Seigneur, les fortifier, les encourager, les secourir, les soutenir. Et ce, quel que soit le chemin par lequel un de tes enfants passerait ce matin, veux-je te prie, mon Dieu, mon Père, agis et que ton secours soit véritable. Père, ma part, je t'adore de tout mon cœur, en esprit, en vérité. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous disons ainsi... Le dernier A, amen.